jusqu'au pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour investir au pays vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, vos réactions sur un projet de loi au Mali qui devrait permettre au général Assimi Goïta de rester à la tête du pays pour une durée indéterminée. Le texte a été adopté en Conseil des ministres. Il prévoit d'octroyer au chef de la junte un mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable, sans élection, et ce, jusqu'à la pacification totale du pays. Autrement dit, pas d'élection tant que la paix ne sera pas de retour. Alors, se dirige-t-on vers une présidence à vie d'Assimi Goïta? Que vous inspire ce tournant dans la transition malienne? Où que vous soyez, vos réflexions, vos analyses nous intéressent. Vous nous contactez, le standard 33 9 693 693 70. On vous attend évidemment avec toute l'équipe sur nos réseaux sociaux. On scrute Facebook, WhatsApp et je lirai quelques-unes de vos remarques évidemment dans la deuxième partie de l'émission pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions sur l'actualité, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre tous les sujets que nous évoquons, que nous traitons dans nos différents journaux. On va commencer avec des questions sur la situation au nord du Mali. Bonjour Serge. À Abidjan, Côte d'Ivoire, vous avez des questions sur les combats entre les indépendantistes Touareg et les forces armées maliennes qui sont appuyées sur le terrain par les combattants russes de l'Africa Corps.
Oui, évidemment, évidemment, évidemment. Alors, j'ai lu dans un article sur RFI et que les rebelles du FLA affirment avoir abattu un avion de combat de la coalition. Mais l'armée malienne parle d'un accident à cause de la météo. Alors, j'ai juste trois questions à ce sujet.
Ah, allez, alors allez-y avec la première.
Y a-t-il des éléments qui permettent de vérifier l'une de ces versions?
Oui, qui dit vrai, les forces armées maliennes ou les rebelles Touareg? Serge Daniel, bonjour.
Juan, bonjour.
Correspondant régional de RFI, l'avion en question est un Sukhoi de fabrication russe. Il s'est écrasé à Gao samedi dernier. Que sait-on des circonstances de ce crash?
Alors, il y a une certitude, Juan, et j'aimerais bien le dire à notre auditeur d'Abidjan, qui s'appelle Serge. C'est un aéronef de la coalition armée malienne Africa Corps, comme l'a dit, ex-Wagner. Il est tombé dans la matinée du 14 juin dans un bras du fleuve Niger à Gao, non loin de la piste d'atterrissage de cette principale ville du nord du Mali. Les deux pilotes russes se sont éjectés de l'appareil, sains et saufs, et des pirogues ont aidé à transporter les débris de l'appareil. Vous avez dit, c'est un Sukhoi 24 de fabrication russe, un avion de combat. Voilà la certitude. Maintenant, pourquoi l'accident? Là, avant tout, c'est version de l'armée malienne contre version de la rébellion du Front de Libération de l'Azawad FLA. Dans un communiqué, l'armée malienne affirme, je cite, « Les premières informations indiquent une forte dégradation météorologique soudaine avec un fort vent de sable au moment de l'accident. » Fin de citation. En clair, pour le service de communication de l'armée régulière, c'est le mauvais temps qui est responsable de l'accident.
Oui, voilà pour l'armée, oui, pour la version officielle de l'armée. Il y a aussi, vous le disiez Serge Daniel, la version des rebelles maliens du Front de Libération de l'Azawad.
Oui, tout à fait. Dans la matinée du 14 juin, c'est le porte-parole de la rébellion malienne du FLA, Mohamed El Maouloud Ramadan, qui le premier a appelé la presse pour annoncer, je cite, « L'aviation ennemie a tenté de cibler une patrouille mobile contre nos unités rebelles et la défense aérienne de la rébellion a infligé un tir direct à l'appareil qui finit sa course dans le fleuve Niger-Agao. » Fin de citation. Donc vous voyez, c'est version contre version, mais deux précisions quand même. L'armée malienne a précisé qu'elle donnait d'abord dans un premier temps, les premières informations. On attend toujours de nouvelles précisions. Ensuite, ce qui a créé un peu un malaise, c'est que, dans un premier temps, l'armée malienne, dans une courte déclaration, a affirmé que rien, absolument rien, ne s'était passé.
Et ensuite, il y a donc eu la confirmation de ce crash. Serge Daniel, reste avec nous. Serge d'Abidjan a encore des questions à vous poser. On vous écoute.
D'accord. Le FLA annonce une offensive générale dans le Nord. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Est-ce que les rebelles ont les moyens de mener une offensive face à l'armée malienne et AFRICORPS?
Alors, Serge Daniel, effectivement, tout juste après le crash de cet avion, le Front de Libération de l'Azawad, par la voix de son porte-parole, a annoncé une offensive générale. Que faut-il comprendre?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle annonce une offensive générale, depuis qu'elle a perdu le contrôle de la ville de Kidal en novembre 2023. Mais il y a un contexte. Depuis quelques semaines, vous savez, il y a un regain de tension sur le terrain. Attaque djihadiste contre les positions de l'armée au nord, au centre, au sud. Et le porte-parole de la rébellion nous a précisé ce matin, avant l'émission, sa pensée. C'est désormais un secret de polichinelle. Il y a des passerelles entre les rebelles et les djihadistes pour au moins combattre un adversaire commun, la coalition armée malienne AFRICORPS, qui vient de remplacer officiellement sur le terrain le groupe paramilitaire russe Wagner. Alors, la rébellion malienne du FLA veut dire que sur le terrain, elle sera de plus en plus présente, c'est déjà le cas, mais de plus en plus présente, à commencer dans les régions du nord du Mali, contre l'armée malienne, dans une zone qui couvre plus de la moitié de la superficie du pays, une zone qu'elle appelle l'Azawad.
Et sur le terrain, Serge Daniel, les rebelles du FLA ont-ils vraiment les moyens de prendre le dessus sur l'armée malienne qui est appuyée, il faut le rappeler, par les combattants russes de l'AFRICORPS?
Alors, c'est ce qu'on va voir. Il faut savoir que l'armée malienne intervenait essentiellement à l'aide de drones. Mais la nouveauté maintenant, depuis un moment, c'est que les rebelles du FLA, comme les djihadistes, utilisent aussi les drones lors des attaques. Ça pourrait, dans des cas sur le terrain, rééquilibrer, je pense, les forces. J'utilise le conditionnel quand même. Mais ce qu'on observe quand même aujourd'hui, Juan, c'est que la coalition qui se bat contre les rebelles n'est plus en mode offensive de manière permanente. Je dirais que les rebelles, un moment, faisaient la politique de leurs moyens et que depuis un moment, ils ont plutôt, je crois, les moyens de leur politique. Ils ont de plus en plus les moyens de leur politique. Les observateurs estiment d'ailleurs que dans les semaines à venir, il y aura probablement une clarification sur le terrain en termes de rapport de force entre les belligérants.
On suivra ça, bien évidemment. Serge à Abidjan, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Ah oui, monsieur Juan Gomez, je veux dire un merci à Serge Daniel.
Correspondant régional de RFI sur le Sahel. Merci infiniment à tous les deux. 10h17 à Paris, déjà 10h18, même à Paris, les secondes défilent. On repasse au standard au 33 9 693 693 70. Des questions sur la République démocratique du Congo. Martins, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Quel accueil à Lubumbashi, merci de votre fidélité. Des questions donc sur votre pays où l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba.
Ouais, j'ai suivi sur RFI que le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo est inculpé pour détournement de fonds utilisés pour construire une prison. J'entends aussi parler de détournement des fonds d'indemnisation FIVAO. J'ai du mal à comprendre d'où proviennent les sommes détournées. Voilà ma question.
Eh bien, vous savez quoi, Patient Ligaudy est avec nous, il va nous éclairer, il va tout nous expliquer. Bonjour Patient.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI, le garde des Sceaux soupçonné d'avoir détourné 19 millions de dollars de fonds publics, expliquez-nous.
Oui, la question posée est tout à fait légitime, hein, parce que l'affaire qui implique le ministre de la Justice de la RDC est complexe. On y voit plusieurs niveaux, les niveaux administratifs, financiers et judiciaires. Alors, pour résumer simplement, tout part d'un projet de construction d'une prison à Kisangani. On parle d'un marché public d'environ 29 millions de dollars qui a été attribué à une société appelée Zion Construction, mais l'existence même de cette entreprise est aujourd'hui contestée par le procureur. Sur ces 29 millions, 19 millions ont été effectivement transférés, mais pas encore dépensés. Selon le rapport de la commission parlementaire qui a auditionné le ministre et le procureur, cet argent ne vient pas du budget de l'État congolais classique, mais d'un fonds spécial. Alors, il s'agit du FRIVAO, c'est-à-dire le fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Et ce fonds a été créé après une décision de la Cour internationale de justice en 2022, qui a condamné l'Ouganda à verser 325 millions de dollars à la RDC pour les violences commises entre 1998 et 2003. Et à ces jours, 195 millions de dollars ont été déjà versés. Alors, selon les indications, 12,5% de ces fonds sont destinés à des projets publics pilotés par le ministère de la Justice. Et c'est dans cette enveloppe de 12,5% que les 19 millions auraient été prélevés pour financer donc le projet de prison. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le ministre de la Justice lors de différentes auditions organisées par la commission parlementaire, selon le rapport que nous avons pu consulter.
Voilà, si j'ai bien compris, selon l'accusation, l'argent détourné ne proviendrait pas donc du Trésor public, mais donc de ce fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, le fonds qu'on appelle donc le FRIVAO. Est-ce que c'est plus clair, Martins, pour vous ?
Oui, oui, je remercie Pascal et Gauthier, je vous remercie aussi, c'est vraiment clair.
Bon, merci. Bah écoutez, tant mieux, et j'en profite justement pour aller un peu plus loin que votre question, Martin. Spassion Ligodi, l'Assemblée nationale a autorisé la justice donc à poursuivre le ministre. En quelques mots, quelle est maintenant la suite de la procédure ?
Déjà, on a cette décision du procureur qui a interdit au ministre Constant Mutamba de sortir de la ville, de sortir de Kinshasa. Donc, il ne peut plus sortir de la capitale. Ensuite, il y aura sans doute la démission du ministre.
À suivre donc avec le service Afrique de RFI, nos correspondants, et avec vous, Patient Ligodi, journaliste au service Afrique de RFI. Vos explications sont évidemment à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio, à tout moment et sans modération, bien évidemment. Il est 10h22 à Paris, 8h22 en temps universel. Vous nous suivez à la radio et vous nous regardez, vous nous suivez également en vidéo sur l'application sur l'application YouTube en direct. Évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, j'en lirai évidemment quelques-uns. Vous êtes encore nombreux au standard ce matin à nous poser des questions sur le conflit entre Israël et l'Iran. Nouvelle nuit de frappe de part et d'autre, les hostilités se poursuivent pour la 5e journée consécutive. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour Juan, bonjour tout le monde.
À N'Djamena au Tchad, nous vous écoutons.
Israël est-il capable de supporter une offensive iranienne, sachant que l'Iran a plusieurs alliés de son côté ? Et quelles sont les capacités militaires de l'Iran ?
Ah, quelle est la force de frappe de l'Iran ? Bonjour Jonathan Piron.
Bonjour.
Historien spécialiste de l'Iran pour le Centre de Recherche Éthiopia à Bruxelles. Jonathan Piron, notre auditeur, nous parle des alliés de l'Iran. Mais ces alliés aujourd'hui, ils sont affaiblis.
Mais oui, et en fait même il n'en a presque plus, parce qu'il faut revoir ce qui s'est passé depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023. C'est que ceux qu'on appelait en fait les membres de l'axe de la résistance, qui est cette espèce en fait d'alliance autour de l'Iran dans lequel on retrouvait le Hamas, mais aussi le Hezbollah du Liban, le régime d'Assad et des milices pro-Iran en Irak, eh bien en fait ces acteurs ont disparu, sont très affaiblis. Le régime d'Assad s'est effondré, le Hamas et le Hezbollah sont tombés aussi sous les bombardements et les attaques d'Israël. Oui. Et donc en fait l'Iran est très seul.
Il reste encore, Jonathan Piron, les Houthis au Yémen.
Il reste les Houthis, mais qui ont aussi leur propre agenda politique et qui sont très loin d'Israël et qui n'ont pas les moyens d'attaque qu'avait par exemple le Hezbollah.
Voilà. Bon, bah, au moins c'est clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Iran ne peut compter que sur lui-même finalement pour répondre à la riposte des frappes israéliennes. Quelle est la capacité militaire de l'Iran ?
En fait, du point de vue militaire classique, le régime iranien est très faible parce qu'il est sous le coup de sanctions internationales depuis son origine. Et donc, ses avions sont dépassés, son armée aussi est obsolète. Et ses seules manœuvres, en fait, ses seules opérations peuvent reposer sur ses missiles balistiques. Mais ils sont limités aussi puisqu'on pense qu'il y en a 2000. Et donc, à un moment, son stock sera épuisé. Israël est donc beaucoup plus fort.
Oui, il faut juste que les auditeurs aient la carte géographique en tête. Les deux pays ne sont pas voisins. Donc, forcément, la guerre, elle n'a lieu que dans les airs. Donc, vous le disiez, l'armée de l'air iranienne est obsolète. Elle ne dispose plus que donc de ses missiles. On parle de 2000, 3000 missiles balistiques, de drones chargés d'explosifs. Est-ce que vous avez des informations précises là-dessus, Jonathan Piron ?
On est en fait sur ce chiffre-là parce qu'on n'a pas de certitude, il n'y a pas d'inspection. On pense ici pour le moment que ce serait aux alentours de 150, peut-être un peu plus missiles qui auraient été lancés sur Israël. Mais ce sont aussi des missiles qui parfois ont des lacunes, des erreurs. Et surtout aussi, il y a le dôme de fer israélien qui parvient à en abattre énormément en vol.
Voilà, un dôme de fer, effectivement, qui permet d'intercepter les projectiles, quoique il n'est pas infaillible. Hein. Ce dôme de fer, on l'a encore vu ces dernières heures, l'Iran affirme avoir détruit des cibles stratégiques en Israël. Reste avec nous, Jonathan Piron, on a d'autres auditeurs qui souhaitent vous interroger. Jean-Bernard, bonjour.
Bonjour, Juan.
Au Cameroun, nous vous écoutons.
Pourquoi l'Iran tient absolument à avoir l'arme nucléaire ?
Alors, officiellement, rappelons-le, Jonathan Piron, Téhéran dément vouloir se doter de l'arme atomique. L'Iran affirme poursuivre uniquement un programme nucléaire civil. Mais c'est vrai que ça fait maintenant 3 décennies, et je parle sous votre contrôle, que l'Occident, comme Israël, accuse l'Iran de chercher à se doter de l'arme atomique. Pourquoi Téhéran développe-t-il ses capacités nucléaires ?
En fait, on a aujourd'hui, à travers toute série de documents qui ont été découverts et révélés, notamment par l'Agence internationale de l'énergie atomique, la conviction que l'Iran a voulu se doter de l'arme nucléaire jusqu'en 2002. Et qu'après 2002, la volonté politique n'a plus été présente. Mais en fait, ils ont continué à développer leur programme nucléaire civil parce qu'ils estiment que c'est leur droit. Et en effet, toute une série de textes, notamment le traité de non-prolifération nucléaire, autorise des États à se doter du nucléaire civil. Maintenant, ici, sur l'arme nucléaire, en fait, l'Iran joue ce qu'on appelle du chantage nucléaire, montrant qu'il a la capacité technique de se doter d'une arme, mais sans encore franchir le cap politique, parce que ça lui permet justement alors de faire pression aussi dans la région, de montrer qu'il peut aussi devenir maintenant un état de l'arme nucléaire, et que si des négociations ne permettent pas non plus de lever des sanctions, eh bien il pourrait s'y diriger. Donc il joue tout le temps en fait de
donc
ce
chantage.
Donc
c'est un moyen de pression. Continuer à développer le programme nucléaire, c'est un moyen de peser finalement sur les négociations.
Notamment, mais on est aussi aujourd'hui dans une situation parce qu'il y avait un accord sur le nucléaire en 2015 qui remettait aussi toute série de contrôles sur le programme nucléaire iranien, mais qui a été en fait abandonné par Trump en 2018. Mmh. Et donc la responsabilité aussi de la situation actuelle repose aussi sur les mains du président américain, parce que si les États-Unis étaient restés dans l'accord nucléaire, on n'aurait pas certainement aujourd'hui un Iran qui a enrichi son uranium à des taux aussi élevés.
Il nous reste encore à peine 3 minutes, mais le temps tout de même de prendre une dernière question. Chibrel, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Pourquoi Israël justifie-t-il ses frappes par le programme nucléaire iranien, alors que l'armée cible pourtant des quartiers civils, notamment à Téhéran ?
Ah, oui, je comprends votre question. Jonathan Piron, officiellement, ces frappes, elles visent à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Alors effectivement, il y a des sites nucléaires, des sites militaires qui sont ciblés par les frappes israéliennes, mais il y a également des zones habitées qui sont touchées.
En effet, et c'est une question très importante parce qu'on voit maintenant, depuis les 24 dernières heures, que des infrastructures civiles sont touchées, mais aussi des zones pétrolières. Et donc, on a aussi des déclarations de Netanyahou qui dit que maintenant, il n'exclut pas de tuer aussi le guide Khamenei et de remodeler en fait le Moyen-Orient suivant ses volontés. Et donc, on est au-delà des frappes contre le seul nucléaire. On est vraiment dans une ambition de changer le régime en fait en Iran.
De provoquer un changement à la tête du pays. Et vous qui êtes un spécialiste de l'Iran, Jonathan Piron, les Israéliens peuvent-ils y parvenir ?
C'est très compliqué parce qu'on ne change pas le régime politique d'un pays en le bombardant. Il faudrait une invasion militaire s'il voulait effectivement renverser le pouvoir, mais ça c'est très compliqué. En fait, on est surtout dans une volonté de peser sur le régime, d'amener aussi du chaos, de la stabilité, et peut-être aussi de l'obliger à revenir négocier sur le nucléaire, mais dans une position de faiblesse, ce que les Iraniens ne veulent pas.
Merci infiniment, Jonathan Piron, de votre disponibilité, de votre éclairage, historien spécialiste de l'Iran, pour le Centre de Recherche Ethiopia à Bruxelles, en Belgique. D'autres questions pour mieux comprendre l'actualité, demain matin, dès 8h10, temps universel, et d'ici là, vous n'hésitez pas, vous nous appelez, le standard reste ouvert tout au long de la journée, 33 9 693 693 70. On attend également vos questions sur nos réseaux sociaux, et si vous nous envoyez des questions via Facebook, surtout envoyez-nous votre numéro de téléphone en message privé, ça évitera que l'ensemble des auditeurs ait vos coordonnées personnelles. Vous restez avec nous, évidemment, RFI continue à vous donner la parole, ce sera dans 10 minutes et nous débattrons du Mali et de cette perspective d'une présidence à vie pour le général Goïta.